Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée ce matin par Alexandre Barthélémy. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, eh bien dans cette première heure, on va retrouver, comme très souvent, Martin Schwarzappel, bonjour.
Bonjour, ça va aussi.
Et puis à partir de 9h, je vous emmène dans un lycée un petit peu particulier, le lycée Lazare Ponticelli. Alors c'est un petit peu une utopie réalisée ce lycée, avec le programme d'innovant lycéen, le pôle innovant lycéen, qui est une structure expérimentale dont l'objectif est justement de raccrocher au système scolaire des élèves qui sont déscolarisés depuis très longtemps. Et on va voir que, eh bien, ça marche. Peu ou pas de répression dans ce lycée, à travailler sur des projets. Deux structures concomitantes, qui est le lycée intégral, qui vise à réapprendre aux élèves à apprendre, à réintégrer un cursus plus ou moins normal, entre guillemets, avec beaucoup, beaucoup de guillemets pour le normal. Et puis aussi le lycée de la solidarité internationale, qui permet à des élèves de trouver leur voie en allant ailleurs, en l'occurrence c'est au Sénégal qu'ils vont réaliser des projets de coopération internationale. Et ben, on va voir que ces projets les ouvrent et en fait des citoyens, n'est-ce pas le rôle de l'école aussi? La question est ouverte. Face à la deuxième thématique de cette émission, on va parler d'une utopie un petit peu réalisée quand même. Une grande surprise pour moi, on a rencontré ses professeurs et ses élèves du pôle innovant lycéen. C'est donc au lycée Lazare Ponticelli dans le 14e arrondissement, 13e arrondissement de Paris. Un lycée qui est situé rue Barou, donc dans le 13e, et où se passent des choses assez extraordinaires. Des élèves qui ont décroché l'école depuis longtemps viennent ici pour tenter de se remettre au travail avec une prise de conscience assez extraordinaire. Je vous propose de les écouter tout de suite. Ma première question a été, quand je les ai rencontrés, ces élèves, bien sûr, de leur demander ce qu'ils venaient faire là.
Et on reprend les cours, quoi. On serait habitué à se lever le matin, on reprend le cycle, quoi. On essaie de rentrer un petit peu plus dans le système normal, quoi, le système basique, parce que là, pour l'instant, on était tous déscolarisés depuis plusieurs années, enfin, depuis, je sais pas, pas tous la même période, quoi, mais on a tous eu des périodes de trous, quoi, de blanc, on faisait rien, quoi.
On vient pour nous-mêmes, c'est nous qui avons envie de travailler, on vient reprendre. C'est pas comme avant où c'était obligé et tout ça. Là, c'est on vient pour réussir.
Enfin, on est tous avec des gens qui nous ressemblent un petit peu, quoi, parce que même si c'est pour des raisons différentes, à un moment, on était tous dans la même situation, donc on est là, et comme ça, il n'y a pas le contraste avec les autres gens, tout ça, qu'il peut y avoir dans des lycées traditionnels ou quoi, dans des collèges, où il y a des gens qui s'en sortent vachement bien, il y en a d'autres qui sont à l'écart, parce qu'ils ne font plus rien, ensuite ils ne viennent plus, ils ne sont plus motivés, alors que là, c'est que des gens qui sont pareils que nous, quoi, donc on s'entraide, tout ça, et puis franchement, même en cours, ça se passe bien, quoi, même s'il n'y a que des derniers de la classe, s'il y a que des mecs déscolarisés, tout ça, qui ont été virés et tout, bon, encore, ça se passe super bien, parce que les profs, ils sont vachement bien avec nous, c'est des gens, ils réfléchissent beaucoup, et enfin, voilà, quoi, il y a un super contact avec eux, et du coup, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, quoi. C'est ça, c'est grâce au personnel, grâce au système qu'il y a ici, aux gens, voilà, aux élèves aussi, à l'ambiance qu'il y a.
On est bien ici, on est comme chez nous,
en fait. Bah, le délire, c'est quoi? C'est qu'ici, genre, ici, en fait, ouais, on est tranquille, quand on arrive en retard ou quoi, ils vont pas nous dire, ouais, vous arrivez en retard. Enfin, ils vont pas nous faire la morale, tout ça. Parce qu'en fait, ils ont compris que l'école, c'était, ça nous plaît pas, que c'était casse-couille. Et dans le délire, ils ont adapté les cours, en fait, pour nous, genre. Et ça, c'est frais, franchement, c'est frais.
Moi, je pense que c'est au niveau de l'ambiance. C'est l'ambiance qui nous fait revenir tous les jours. On revient avec plaisir. On a envie de venir pour travailler, pour voir les profs, les élèves, tout ça. Et même malgré qu'on vient de loin, on a envie de se lever, de prendre le RER et de venir travailler.
On sait que maintenant, que c'est pour nous-mêmes. On fait pas ça pour nos parents ou quelque chose d'autre. Même si pendant 2 ans on a rien fait, on a été dans la rue, tout ça, on peut atteindre le bac. Ça, franchement, c'est un grand plus et c'est vraiment rare. Là, on a vraiment une chance là. Par exemple, CAP, CAP, ça c'est pourri pour nous. Nous, on veut faire le bac.
C'est
bien ça.
Ils nous redirigent ici. En fait, on vient, on passe une année. Et si l'année elle se passe bien, bah, ils peuvent nous rediriger vers des filières générales qu'on apprécie et qu'on a envie d'y aller. Parce que BEP, franchement, ça me donnait pas envie d'y aller.
Ouais,
Ouais, parce que nous, on se voit pas BEP, nous. Même nous, on veut, on veut être des grosses têtes plus tard. Et nous quatre, on a tous des points forts. Que nous, plus tard, on sera des grosses têtes. Et même si on a des problèmes avec le quartier, la rue, tout ça, ça, c'est juste des petits facteurs qui sont rien. C'est tout. Mais nous, on va réussir plus tard. Et ça, c'est vraiment un grand plus. Bon, moi, écoutez, moi, je vais faire juge. Moi, je vais faire dans le judiciaire. Et voilà. Moi, je suis passionné de tout ce qui est politique, même si je viens d'un quartier chaud, tout ça. Et j'ai délaissé toutes les activités pendant 2 ans. Moi, j'étais dans les émeutes, tout ça. Maintenant, je travaille bien. J'avais des lacunes en mathématiques. C'était une phobie pour moi. Maintenant, là, c'est bon. Ici, on a... Comment ça s'appelle, là, qu'on fait la même... C'est pour les devoirs.
ATP.
Ouais, on fait ATP, tout ça, et ils nous aident. Et maintenant, moi, les mathématiques, ça va. Ça, c'est comme sur des roulettes.
En fait, c'est quoi, madame? C'est dans la semaine, on a 2 créneaux pour faire nos devoirs directement ici. Parce que quand on rentre chez nous, c'est difficile. Moi, personnellement, je n'ouvre pas mon cartable. Quand on vient ici, on fait les devoirs, on est aidé. Ils nous ont un peu recadré. Parce qu'avant, moi, franchement, je n'allais jamais en cours. Même au début, ici, j'étais là, mais vite fait. Ça. Et maintenant, franchement, j'ai plaisir à venir, tout ça. Il faut que je m'en sorte. Ça sert à rien de rester dans la rue, tout ça. Je suis trop resté dans la rue, donc ça sert à rien de rester.
Pendant 8 mois, je faisais rien. Parce que moi, j'ai fait 2 ans en alternance et j'ai pas aimé le CAP. Moi, je me vois pas avec un CAP, moi. Ça, c'est pourri, ça. Moi, je vais faire le bac.
Moi, j'ai envie d'aller en première L si l'année, elle se passe bien. Après, peut-être des études de droit.
Ouais. Après, voilà. Ouais, moi, c'est idem. Je vais faire du droit. Moi, je vais faire STG plus tard. Inch'Allah. Donc, voilà.
STG, ouais. C'est quoi?
STG, c'est filière... C'est quoi? C'est sciences techniques générales. Ah, oui, sciences techniques générales. Donc voilà, on peut faire du droit avec.
Bah, moi, au début, j'étais plus sur un projet littéraire. Mais après, voilà, j'ai pris conscience du truc quand même, parce que moi, ça faisait 3 ans, j'étais déscolarisé. Et voilà, quoi, des lacunes à mort. Donc même si en français, je m'en sortais bien à l'époque, là, vu le programme de L, j'ai vu que c'était pas possible. Donc c'est peut-être plutôt STG aussi, pareil, comme Sofiane. Hein. C'est un petit peu plus facile, mais c'est pareil, ça peut quand même avoir des bons débouchés.
Voilà, des bons débouchés. Ils débouchent leurs horizons en arrivant dans ce lycée. On va laisser maintenant la parole à leur professeur, à qui j'ai demandé bien sûr de se présenter. Et puis, vous verrez que ces professeurs sont aussi des personnes quasiment aussi atypiques que leurs élèves.
Je m'appelle Philippe Taburet, je suis enseignant en histoire-géographie à l'origine et coordinateur du lycée de la scolarité internationale.
Nicolas Mullet, professeur d'électronique à l'origine. Je m'occupe donc de tout ce qui est énergie solaire, sur des projets de panneaux solaires donc au Sénégal. Et ici, entre autres, donc des ateliers électroniques, sciences, mathématiques. Voilà.
Moi, je m'appelle Anne Contant, je suis enseignante ici. Qu'est-ce que j'enseigne? Peut-être un peu l'histoire, les sciences humaines. J'incite, je pousse, je force gentiment à écrire, à exprimer, à argumenter. Enfin bref, ça relève un peu des lettres aussi. Voilà. J'essaie qu'on améliore ensemble notre capacité d'expression orale ou écrite.
Alors déjà, dans votre présentation, on sent beaucoup moins de contraintes que dans un lycée, disons, classique. Alors, pour ce qui est de ce lycée ici, vous allez me dire où on est et ce qu'on y fait.
C'est le lycée Lazare Ponticelli. Nous sommes hébergés dans cet établissement depuis 2 ans, étant donné que nous avons choisi, nous, polyinnovants lycéens, d'être hébergés dans un établissement et pas de créer un établissement expérimental, comme par exemple les lycées autogérés. Ce sont des projets qui ont été menés par le ministère de l'Éducation nationale à partir de 2000, afin que des équipes se saisissent de la problématique du décrochage scolaire et de comment en faire avec des pédagogies innovantes pour remettre les élèves dans le chemin de la formation, qu'elle soit scolaire ou autre. Donc nous avons 100 d'élèves cette année, divisés sur 3 structures. Une qui s'appelle le lycée intégral, qui est plutôt fait pour des élèves qui ont déjà été au lycée général ou professionnel et qui ont le désir donc de revenir dans un cursus général ou professionnel. Ensuite, nous avons le lycée de la scolarité internationale, qui est fait plutôt pour des élèves qui sont en grande interrogation. Et notre vecteur de raccrochage est plutôt, nous, la solidarité, ici et là-bas. Et donc, autour d'un va-et-vient entre les études, parfois la préparation du brevet des collèges pour certains, et des chantiers de solidarité internationaux au Sénégal. et des stages en association en France.
Vous accueillez des élèves qui ont quel niveau et qui ont quel âge ?
Alors, nos élèves, ils ont entre 16 et 20 ans, 21 ans parfois. Et ils ont alors des niveaux complètement différents. Ils peuvent sortir vraiment d'une fin de collège, même parfois d'une fin de cinquième. Et puis d'autres, ils sont déjà allés jusqu'en première ES. Donc vous voyez, des milieux scolaires très hétérogènes, mais qui ont une ambition, tout du moins, et un désir commun qui est d'aider les autres et de découvrir et prendre du temps pour se former et réfléchir sur ce qu'ils voudraient faire plus tard.
Comment vous voulez recruter, entre guillemets, ces élèves ?
De la même façon que pour être enseignant ici, il faut être volontaire, pour être élève ici, il faut être volontaire. Donc il y a tout au long de l'année des réunions d'information qui sont annoncées sur notre site, dans les centres d'orientation aussi. Et les élèves qui ont décroché donc, peuvent être informés de ce qui se passe ici, de ce qu'on propose régulièrement. Et à partir du mois d'avril, chacun d'entre nous commence à recevoir les élèves qui seraient intéressés pour l'année suivante. Donc ce sont de longs entretiens où on revisite avec ces élèves, ces candidats, ce qui s'est passé scolairement, pourquoi il y a eu un décrochage, pourquoi il y a eu un abandon, pourquoi il y a eu un absentéisme perlé, pourquoi il y a eu conflit. Et en fonction de ce qui se dit dans ces conversations assez longues, on voit si on peut proposer quelque chose ou pas. Et on essaie de sentir, ce qui est bien difficile, la motivation de la personne que l'on a en face de nous. Et voilà, ensuite on discute en équipe des personnes qu'on a rencontrées et puis on procède à l'accueil.
Est-ce que vous pouvez me donner une petite proportion des gens que vous accueillez par rapport à tous ceux que vous recevez et avec qui vous avez des entretiens ?
Disons qu'on reçoit 300 personnes et on en prendra 100. Donc voilà, c'est 1 sur 3, quoi, à peu près.
Et quels sont les critères ? Est-ce qu'il y en a ?
Non, évidemment, il n'y a pas vraiment de critères, mais quand même, le décrochage doit être avéré. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a été absent après, par exemple, un mois de grève ou une mobilisation qui a particulièrement frappé les lycées que ça va s'appeler décrochage scolaire et mériter l'intervention d'une équipe comme la nôtre. Il faut quand même que la vacance ait été plus longue, que la personne elle ait eu le temps de se dire « Tiens, je suis dans le vide, je ne fais rien et j'ai vraiment envie de faire quelque chose maintenant, quoi que ce soit. » Il faut qu'il y ait une maturation dans l'abandon. Parce qu'une rupture scolaire, c'est une rupture scolaire, mais c'est très souvent une rupture sociale aussi. Et dans un premier temps, cette rupture sociale, elle peut être revendiquée, affichée, voulue, désirée, vécue positivement ou négativement, mais en tout cas vécue, quoi. Puis parfois vient un temps où ça devient plus difficile à vivre, cette coupure avec les liens sociaux habituels, avec ses pairs, avec les gens de son âge. Et à ce moment-là, vient le désir de revenir dans un lieu social et dans un temps aussi de formation. Alors voilà, c'est à ce moment-là que nous, on peut proposer quelque chose. Mais voilà, et ce n'est pas des critères très précis.
J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'un petit peu luxueux, ce dispositif.
Moi, je le verrais à l'envers. Ça veut dire que c'est l'éducation nationale qui, à un moment, voit quelle est la perte des forces et la perte de l'investissement. Parce qu'il faut parler comme ça, hein. On est malheureusement confronté à plus la gestion des hommes que à la qualité ou au qualitatif. Et par-delà, quand vous avez entre 120 000 et 160 000 enfants qui quittent chaque année le système scolaire sans diplôme, c'est 17% d'une classe d'âge, donc c'est pas rien. Ça coûte très cher à l'État, étant donné que il va falloir d'une façon ou d'une autre, à un moment ou un autre, les réintégrer dans le système. Le prix d'un élève de seconde est quand même beaucoup moins onéreux que la reprise d'une formation à 25 ans avec des organismes de formation souvent privés en plus, donc qui se payent bien. Deuxième chose, outre cette question financière, il y a aussi pour cette question de confort, c'est que ce sont des enfants qui sont très souvent extrêmement mal en eux-mêmes. L'école n'est que, si vous voulez, le haut de l'iceberg. Très souvent, c'est des accidents de la vie, des accidents familiaux, des ruptures familiales, des complexités médicales, etc., etc., qui font que les enfants arrivent dans une forme d'arythmie scolaire qui n'est pas adaptable au système traditionnel. Donc il faut bien y trouver les moyens pour justement les... leur redonner une deuxième chance. J'aime pas tellement ce terme-là, mais disons les accompagner pour qu'ils reprennent d'abord estime d'eux-mêmes pour repartir vers quelque chose qui les intéresse. Ce qui n'est pas forcément le baccalauréat. Hein. Ça peut être autre chose et des choses bien intéressantes. Et normalement, on a le droit de faire des études toute sa vie.
Le rôle des parents, quel est-il ?
Il est essentiel. Alors, tout le monde n'a pas des parents. En revanche, nous, on tient beaucoup à une relation en triangle, c'est-à-dire l'élève, les enseignants et les personnes qui sont responsables de sa vie quotidienne à l'extérieur, que ce soit parents ou autres. Parce que, voilà, c'est important, dans cette tranche d'âge hein, où on passe, on se dirige vers un moment où on sera complètement responsable de soi, c'est important d'être à la fois autonome et de bien percevoir cette réalité que parfois on a un adulte derrière qui est là pour assurer le quotidien. Donc la personne extérieure à l'école est importante et donc elle est toujours dans une discussion à tel point que par exemple quand nous faisons nos conseils de progrès, enfin, c'est l'équivalent des conseils de classe où les élèves font eux-mêmes leur bilan, dès le deuxième conseil de progrès de l'année, on invite ses parents, enfin ces gens qui sont responsables de l'élève à l'extérieur. Voilà. Et on essaie de favoriser au maximum la discussion. Ce n'est pas toujours donné. Ça peut se construire, ça peut se reconstruire. Et c'est souvent un bon signe quand la relation se rétablit avec le parent ou autre. Hein, ça veut dire que la relation avec la personne elle-même se réconcilie aussi avec elle-même, avec son espoir, son avenir, etc. Voilà, ça va. On se réconcilie ici avec l'école, avec son milieu, avec son avenir. Le proviseur qui avait accueilli en premier ces structures de raccrochage, Monsieur Longhi, disait on apprend aux élèves à reconjuguer le futur. Voilà, et c'est se reconjuguer aussi, se relier avec tout ce qu'on a autour de soi.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de plutôt travailler dans ce dispositif que dans un lycée classique ?
Le lycée classique, j'en viens. Donc voilà, moi je trouvais que je commençais un peu à tourner en rond.
Vous avez fait un décrochage ?
Ouais, j'ai fait un décrochage classique. Non, c'est plus une certaine routine et je sais pas, c'est pas facile à m'expliquer. Je trouvais même, quand je vois comment ça se passe ici, je suis un peu jaloux parce que je trouve que j'aurais bien aimé avoir les mêmes moyens au niveau temps dans mon lycée parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire et qu'on n'a pas le temps et qu'on peut faire ici avec des gamins qui en ont besoin et les gamins de Paris ou de banlieue en ont souvent autant besoin que cela, même si ce n'est pas forcément les mêmes problèmes. Et ça m'a un peu vexé une fois quand on m'a dit « Ouais, mais dans un lycée normal, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. » Et ce que disait Philippe, c'est vrai que c'est aussi une question de moyens. Et nous, quand on a cours pendant 4 heures, s'il y a des élèves qui ont des problèmes, ils vont direct dans le cours d'après et on ne peut même pas leur parler. Enfin, voilà, ça ne se passe pas comme ça. Ici, il y a vraiment ce temps de... Il y a quand même plus de patience et plus de moments où les élèves sont avec nous, en contact. On a vraiment le temps quoi, de régler faire les problèmes et je trouve les relations de confiance pour moi se gèrent grâce à ce temps-là. Quoi. C'est, la grosse différence c'est ça. Hein. Après il peut y avoir des projets au Sénégal, tout ce qu'on veut, mais quand on est fait avec eux toute la journée, c'est quand même autre chose. Quoi.
Alors justement, toute la journée, est-ce qu'il y a le même concept de toute la journée, de cours à heure fixe que dans un lycée classique ? Est-ce qu'il y a le même effectif ?
Alors, au point de vue de l'effectif, pour moi, ça change pas beaucoup parce que moi, donc, prof d'électronique, je travaillais avec des demi-groupes et j'avais donc une quinzaine d'élèves et c'est à peu près ce qu'on a entre, je sais pas, on va dire entre 8 et 14 en moyenne sur le LSI. La grosse différence, donc, c'est ce qu'on disait, c'est que voilà, les niveaux sont assez mélangés, donc c'est pas facile de faire en cours avec des gamins qui ont un niveau 5e et d'autres qui ont un niveau 1er. Mais après donc au niveau emploi du temps donc on a l'emploi du temps qui change entre chaque séquence et surtout donc on est présent toute la semaine au lycée voilà c'est la grosse différence quoi. Quand on n'a pas cours en fait on est là quoi,
dans un lycée. Et alors vous êtes là pourquoi?
Donc moi je suis là donc justement pour faire des nouveaux projets voilà, ce qui m'intéressait c'était quand même ce que je fais donc pour le moment donc tout ce qui est développement on va dire durable énergie solaire pour moi c'est nouveau donc il y a tout à faire c'est quand même quelque chose qui est relativement important on parle de ça tout le temps on se dit que les élèves devraient être assez intéressés par ça c'est le cas Donc pour ma part, je vais partir au Sénégal pour installer ces panneaux solaires au mois d'avril. J'en suis assez fier. Il me tarde de voir comment ça va se passer, mais donc ça fait partie de ça. Après, donc moi, je m'occupe pas mal d'initiation un peu aux nouvelles technologies, donc avec des gamins qui seraient intéressés par faire peut-être de l'informatique, de la robotique, ce genre de choses. Par contre, avec des manières d'enseigner plus libres que dans un lycée normal où il y a un programme, on me dit non, ça t'as pas le droit, ça tu peux pas acheter. Alors que nous, bon, les profs, on sait très bien que voilà, il manque beaucoup de ludique et beaucoup de manières, on va dire, innovantes d'enseigner dans les lycées. Il y a plein de collègues qui aimeraient le faire, mais on n'a pas toujours les moyens. Et je parle pas que des moyens financiers, quoi.
Dans mon parcours d'enseignant, moi j'ai travaillé durant 11 années au lycée autogéré de Paris. On a créé le projet Sénégal au lycée autogéré et on l'a fait 5 ans et au cours de ces 5 années en fait on s'est aperçu des conséquences de ce voyage, des conséquences sur la formation et sur l'école et sur la reprise d'école ou l'abandon définitif de l'école avec un grand tel qu'on la connaît. Et de là est venue l'idée de se dire pourquoi ne pas s'adresser à des élèves vraiment décrochés et de leur permettre de vivre cette expérience afin de leur redonner goût au travail en équipe, à l'obligation d'écrire, à l'obligation de compter, à l'obligation de lire, à l'obligation de partager, de rencontrer des cultures différentes et à partir de là de faire aussi on pourrait dire un chef-d'œuvre, dont ils seront fiers et du coup repatiner leur estime d'eux-mêmes et donc se dire que le chemin des possibles est ouvert. C'est de se dire ouais, j'étais capable de faire ça. J'ai des choses à raconter à mes copains, à ma famille. Je suis plus allongé dans mon canapé à fumer des pétards. Maintenant, je fais des choses qui sont plus dans le vrai et en même temps, on ne peut pas se cacher. Parce que si on ne fait pas, ça ne se fait pas, ça n'avance pas. Il y a des groupes d'élèves, particulièrement LSI2, qui mettent énormément de temps avant de se mettre au travail, qui n'arrivent pas à s'organiser, qui n'arrivent pas à s'autonomiser. Tant que nous, on ne peut pas les laisser partir là-bas pendant 10 semaines ou 15 semaines tout seul. Donc c'est aussi une école de la vie. C'est-à-dire que c'est pas gagné d'avance. Si on ne se bat pas... on réussira pas. Les LSI2, ce sont donc des élèves qui sont déjà partis un an, ont découvert et qui ont en fait inventé leur projet par rapport à ce qu'ils ont vécu l'année précédente. Pendant leur année de LSI2, ça dépend des élèves, ça dépend des années, etc. Mais l'idée, c'est qu'ils se confrontent au montage d'un projet de développement. Avec tout ce que ça incombe, écriture, recherche de financement, formation technique et puis investissement personnel, c'est-à-dire trouver de l'argent pour pouvoir partir parce qu'ils payent bien évidemment leur hébergement, leur transport, leur nourriture, etc. sur place. Donc ce qui est aussi pour nous un axe essentiel parce que c'est de l'engagement bénévole. En revanche, en ce qui concerne le matériel, eh bien ça c'est de la recherche de financement. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas des ONG à 200 000 euros. Des panneaux solaires, une installation solaire comme celle-ci, c'est 2 000-2 500 euros. Mais bon, il faut quand même les trouver. Donc c'est un travail d'arrache-pied. Puis surtout, c'est un travail d'écriture. Il faut écrire le projet. Et ça, ils aiment pas tellement écrire. C'est aussi la continuité d'un projet. Nous avons construit la case de santé il y a plusieurs années, fait former des matrones et un infirmier y travaille. Et le panneau solaire va permettre d'améliorer les conditions, dirons-nous, d'accueil des malades et en particulier lors des accouchements la nuit. Et ce n'est pas que pour le village, qui est un petit village de 600 habitants, mais c'est aussi pour tout ce que l'on appelle les villages halogènes qui sont autour, et donc ça peut toucher une population entre 2000 et 3000 habitants. Voilà. Et c'est une continuité de projet qui est au village de Diarra depuis qu'on y intervient Nous remplaçons entre guillemets ce qui n'est pas fait par le gouvernement sénégalais. Ça veut dire que ce ne sont que des équipements dits collectifs. Jardins, écoles, etc., etc. Voilà. C'est ça l'objet, c'est les équipements collectifs.
Et pourquoi le Sénégal ?
C'était une longue histoire. pourquoi le Sénégal ? Pourquoi l'Afrique d'abord ? Parce qu'on est de banlieue parisienne, personnellement, et en particulier, moi, je suis de Montreuil, donc ville éminemment malienne et surtout soninké. Et là, c'est un village soninké. Par-delà, donc, des filiations directes avec cette population. Plus après rencontre avec des personnes qui disent moi mon village les enfants il n'y a pas d'école, ils peuvent pas aller à l'école, ils peuvent pas aller donc se former, et par delà il n'y a que les enfants nobles qui peuvent aller à Ndjoum, au village d'à côté, là où il y a une école primaire. Donc notre premier travail a été justement de se dire donnons la possibilité à ce village d'avoir une école. Et en 95, il y avait 6 enfants qui étaient scolarisés au village d'à côté. Aujourd'hui, il y a 133 enfants qui sont scolarisés. Et cette année, avec les premières années, on termine la construction de 2 nouvelles classes, ce qui va faire que le village aura 5 classes en dur au 15 février. Voilà, nous nous trouvons dans des conditions de vie à peu près liées au XVIIe siècle, sans eau, sans électricité, etc. Enfin, il y a de l'eau, mais c'est ponctuel, c'est une heure par jour. Donc, du coup, y a tout aussi ça qui prennent dans la figure, qui est un contraste énorme avec leur vie parisienne. Pas de iPod, pas de...
Les portables qui passent pas.
Ah non, mais pas de portable, c'est interdit. On interdit les portables, oui.
Pourquoi ?
Parce qu'il faut se couper. Vous savez, les gamins ou les gamines qui vont être en shabada-bada avec leur nana ou leur copain à Paris, l'autre va mal répondre et après elle va nous faire un caca nerveux sur le chantier. Non, c'est pas l'objet. Notre travail, il est clair, on a 13 jours de chantier, on est là pour bosser, on n'est pas là pour se raconter des histoires d'amour. Voilà. Ouais, c'est très militaire, c'est pas grave.
Tout d'un coup, ça me paraît moins sympathique, votre truc.
Non, c'est pas ça. C'est une. On ne fait pas les choses à moitié. On n'est pas là pour s'amuser avec des petits Africains. On est là pour faire des choses sérieuses dont les gens ont besoin réellement, et pas nous faire plaisir à nous. Il faut que les choses elles soient faites dans la rigueur. Si on veut qu'il y ait une rigueur de gestion après, il faut aussi que nous soyons très rigoureux. De plus, je pense que c'est une très bonne démarche et expérience pour les jeunes que de voir que, effectivement, même sans grandes compétences, mais en mutualisant toutes ces compétences de tous ces gamins, de nous, de nos accompagnateurs sénégalais, et bien que, en fin de compte, sans être maître d'œuvre, sans être spécialiste d'électricité, sans être biologiste quand on travaillait sur la spiruline, et bien malgré tout, on arrive à avec le cœur et écouter les adultes, et ben on arrive à quelque chose. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi une reprise de confiance dans qu'est-ce qu'un adulte et comment peut-être un adulte, c'est pas nécessairement un ennemi ou un porte-monnaie. Ça peut être aussi quelqu'un qui donne des conseils et qu'il faut l'écouter.
Voilà, il faut écouter les adultes. Et bien ça, les élèves semblent l'avoir compris. Enfin, en tout cas, ils semblent le faire de manière assez naturelle. Peut-être parce qu'ils se sentent écoutés aussi, parce qu'ils sentent aussi qu'on n'insulte pas leurs intelligences et qu'ils reconnaissent aussi l'intelligence de ceux qui les encadrent. Je vous le disais, c'est un peu une utopie réalisée. On retrouve donc les élèves. Alors, je tiens à vous préciser que je les ai interviewés pas du tout devant leurs profs. Ils étaient entre eux, à une table, en train de discuter. Donc, il n'y a pas de contrôle. Ils m'ont dit vraiment ce qu'ils sentaient, ce qu'ils ressentaient. Et c'est assez étonnant.
Mais de toute façon, ici, selon notre projet, comme ils parlaient, il y avait ATP et tout. Enfin, ils s'habituent vraiment. Enfin, ils font... Tout est bien réfléchi pour que, selon notre projet, on avance bien, quoi. Je veux dire, même selon les séquences, ça change. La première séquence, par exemple, c'est vraiment... Genre, on vient, on fait des trucs archi faciles. On travaille pas beaucoup, on finit tôt tout le temps. Les profs, ils sont super souriants avec nous tout le temps. Ils vont jamais nous faire de reproches ni rien. C'est vraiment pour que pour qu'on retrouve un petit peu l'envie d'y aller, quoi. Après, la deuxième séquence, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Enfin, on commence à rentrer plus dans le vif du sujet, quoi. On commence plus à rentrer dans les cours, tout ça. Et là, troisième séquence, ça y est. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, par rapport à mon projet, j'ai des cours là de français supérieur, tout ça. C'est, enfin voilà quoi, c'est un programme qui est plus compliqué. Petit à petit, on s'habitue, on fait tout bien. Là, les devoirs, on commence à devoir en faire un petit peu chez nous. Parce qu'il y a moins d'ATP. Enfin, moi, par exemple, j'ai presque plus ATP parce que j'ai le truc de français. Mais ça, c'est, enfin, ça fait partie du truc, quoi. Il y a déjà deux séquences où je faisais mes devoirs, ça, aidé par des profs et tout. Et là, maintenant, normal. De toute façon, si je sors à la fin de l'année, que je vais dans un lycée normal, il faudra bien que je fasse mes devoirs chez moi, quoi. Donc, c'est pour ça, ils nous habituent un petit peu. Mais petit à petit, quoi. Tout est fait petit à petit pour que voilà, qu'on galère pas. Voilà, pour que ça galère pas, quoi.
Ouais. Ça vous fait pas un peu peur de quitter ce lycée-là pour retourner ailleurs ?
Moi, clairement. Ouais. Parce qu'ici, on se sent trop bien. Regardez, on est là. On rigole. Les profs, ils sont trop humains, quoi. Ils sont trop humains, les profs. Genre, je sais pas. Il y a du respect pour le prof parce qu'il y a quand même une hiérarchie. Enfin, c'est ça, comme on dit, une hiérarchie pour dire voilà. Il y a quand même une hiérarchie. Mais c'est rien à voir avec les on va pas vous voyer le prof, qu'on le tutoie, il nous tutoie. Si il rigole, bah il rigole. Je veux dire, il n'y a pas d'élèves qui vont faire oh, le prof, il a rigolé, quoi. Genre il rigole, nous on rigole, voilà, ensuite on se met d'accord. Et je pense qu'ici on est assez mûr pour pouvoir se dire qu'à un moment, voilà, c'est tout. S'il faut fermer notre gueule pour que le cours il avance, bah on se tait, quoi. Après ça, c'est justement, enfin. Ils choisissent aussi les élèves pour pas qu'il y ait des mecs qui n'ont pas encore compris justement qu'en cours il y a un moment où il faut se taire, quoi. Donc voilà, tout se passe bien, je vous dis.
C'est aussi ce qui nous aide, c'est qu'on a chacun un tuteur. Ouais. Moi avant, j'avais pas de tuteur, il n'y avait personne qui m'aidait, les profs ils me laissaient sombrer, je venais pas, ils me disaient c'est bien, ils me disaient ça, ici il vient, et voilà, ils nous aident, ils nous recadrent, ils nous disent ce qu'on veut faire. Après, si on a un problème, on peut aller le voir, on parle avec lui, tout ça. On se confie, tout ça. Après, voilà. Moi, je pense que ça nous aide aussi.
Parce que même, vous pouvez regarder que ça soit style vestimentaire, origine, tout ce que vous voulez. Il y a trop de gens différents. Mais voilà, on s'entend tous bien et clairement, hein, franchement. Et peut-être on serait pas dans le lycée, peut-être qu'on se serait pas bien entendu, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Peut-être on se serait rencontrés et vas-y, tu vois, ça serait pas bien passé, le courant, et voilà. Puisqu'on est tous des gens avec des parcours un peu difficiles, tout ça, donc... Socialement, en général, c'est pas forcément super facile. Et là, ici, il n'y a pas de galère. Moi, je sais, tout ça, c'est mes potos. Et je sais que j'ai pas de galère avec eux, qu'on rigole ensemble.
Tout le département ici. C'est ça qui est bien, tout le département. Et c'est bien, du 9-1 jusqu'au 75-77, il y a tout.
Même à la campagne, on a ici.
Bourgogne aussi. Je sais pas d'où.
Bourgogne.
Ouais, Bourgogne. Non, mais en fait, le truc ici, c'est quoi ? C'est ici, tous ceux qui ont... En fait, on va dire, pas les déchets, mais... en fait, l'école, en fait, quand tu vas à l'école, ils veulent te faire rentrer dans un moule. Ouais. Et il y en a, ils rentrent pas dans le moule. Et tous ceux-là, et ben, en fait, on se retrouve ici, tu vois. Le problème, c'est qu'après, il y en a que 3 écoles comme ça dans Paris. Il y en a que 3. Alors que je pense qu'il y a plus de gens.
Il faudrait plus d'écoles comme ça.
Nous, on est là. Moi, franchement, là, je sais que moi, ça m'a fait grandir. Parce que ici, ouais, comme on y disait, moi, des gens, franchement, il y a des gens ici, je les regarde, je me dis, voilà, là, des gens, je les aurais jamais calculés, c'est limite, voilà. Mais là, ici, moi, quand je parle aux gens, je parle sérieux, tu vois. Genre, on se comprend, en fait. Ouais. Comme on vient tous d'un parcours difficile, on s'est jamais dit, ouais, qu'est-ce qu'on a fait, tout ça. Mais on sait que, voilà, si on est là, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Et c'est qu'on veut tous... Parce qu'ici, tous ceux qui sont là, ils veulent s'en sortir. Ouais. Il n'y en a pas un seul qui... Il y en a peut-être un, mais je sais pas. Mais en tout cas, la plupart des gens ici, ils veulent s'en sortir. Comme ils ont échoué à l'ancienne. Là, ils viennent ici avec d'autres motivations, en fait.
Ce qui était vraiment pas prêt, ça s'est calculé dès les 2 semaines, quoi. Genre, ils viennent et 2 semaines après, et on les voit plus, quoi.
Ouais, c'est ça, en fait.
Et tous ceux qui étaient déjà motivés à la base, en général, ils restent parce que tout est mis en place pour qu'ils restent, quoi.
Parce qu'en fait, ici, c'est pas comme l'école. C'est pas on t'oblige à aller à l'école, en fait. Ici, c'est si tu vois que ça te correspond, que t'es bien parti, tout ça, et ben là, tu restes. Mais si ça te fait chier, tu peux partir, faire autre chose. Carrément, il y en a, moi, j'en connais ici. Et genre, il y en a, ils sont venus ici. Ça leur a pas plu et ici ils les ont quand même aidés pour retrouver un truc dehors. Malgré qu'ils les ont lâché l'école ici, tu vois. Genre ils venaient, ils utilisaient les PC, ils faisaient leur CV. Ici, dès qu'on a besoin d'un truc en fait pour dehors, ils nous l'aident en fait à faire. Genre des rendez-vous à préparer ou des CV, des trucs. En fait, ici ça a plusieurs rôles. C'est frais, franchement, c'est frais.
Franchement, ce lycée-là, c'est une belle expérience tout simplement.
Ouais.
Moi, je pense que l'éducation nationale, elle devrait plus faire des écoles similaires à même programme. Parce que sinon, par exemple, pour nous, on vient de la banlieue, tout ça. Moi, j'avais des idées noires, moi, quand j'avais pas de travail, quand j'avais rien. C'était le chômage, il n'y avait même pas d'argent. Il n'y avait même pas d'école, il n'y avait rien. Moi, je me réveillais à 10 heures, je rentre chez moi, il est minuit, j'avais des idées noires, je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait personne qui veut de moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils n'ont pas de travail, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, ils sont déscolarisés. Ouais, ils veulent faire. Ils ont des grandes capacités, tout ça. Et je sais que s'ils font un bac, ils seront des grosses têtes plus tard, quoi. Ils auront un bon poste. Et il n'y a pas de place, ou ils ne trouvent pas. Parce que ça, les écoles sur là, ils ne sont pas connues. Hein. Moi, j'ai trouvé sur Internet. J'ai tapé déscolarisation, encadrement, tout ça. Après, j'ai trouvé. Maintenant, ça va, alhamdoulilah, hein, tranquille.
Comme moi, par exemple, avant, j'étais pas très mature. Avant, il fallait faire un choix. C'était soit l'école, soit la rue. Et moi, j'avais choisi la rue. Et après, voilà, je me suis ressaisi. Et je me suis dit, vaut mieux choisir l'école, parce que comme ça, je m'en sors, tout ça. Après, je suis venu, j'ai passé les entretiens, tout ça. Et voilà, j'ai été pris, voilà. Après,
moi, je suis venu ici, je me suis calmé, je fais mes devoirs, je suis plus dedans. Maintenant, je sens que je peux apporter quelque chose à la société, en fait.
Voilà, apporter quelque chose à la société, c'est important quand même. Tous n'en sont pas là, mais ceux qui y sont, dans ce lycée, aussi bien dans le programme du lycée intégral que dans le programme du lycée de la solidarité internationale, vous en entendrez trois représentants élèves tout à l'heure, eh bien, ils ont compris qu'ils pouvaient être quelqu'un et apporter quelque chose à la société. On retrouve leur professeur tout de suite qui nous détaille un petit peu le programme de ce qui se passe dans ce lycée.
Le lycée intégral, par exemple, qu'est-ce qu'il différencie du lycée de la solidarité internationale? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement dans ce lycée? Qu'est-ce qui est différent ici?
L'idée du lycée intégral, le projet, c'est le retour à l'école. Le retour dans une formation classique, qui, pour 90% des élèves, sera l'objet. Parfois même avec une préparation à l'EAF, aux épreuves anticipées de français, de première. L'objectif, c'est de reprendre l'école de manière différente, mais d'avoir les référentiels, d'avoir les techniques, les méthodes et la posture scolaire pour revenir dans la vraie école, enfin dans l'école normale. Voilà. Donc, vous voyez, la dynamique, même s'il y a quand même quelques porosités dans les méthodes pédagogiques, hein, entre les deux, nous sommes faits un peu du même bois, malgré des parcours complètement différents, mais comme nous sommes cooptés, nous avons quand même des axes pédagogiques qui sont communs.
Ça veut dire que vous choisissez vos collègues?
Oui, et ça, c'est une des plus grandes bagarres que nous avons eues avec l'éducation nationale, qui a été, et c'est pour ça que beaucoup de nos collègues ne sont pas très, 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 disons, en adéquation avec nous, c'est que le projet ne peut pas exister s'il n'y a pas d'équipe. Voilà. Et donc, une équipe, quand on joue au foot... on choisit un peu c'est l'entraîneur qui choisit. Il y a un chef d'orchestre. Et ben nous, le chef d'orchestre, il est collectif. Nous, on est des vieux gauche-pattes. Voilà. Et c'est très important pour nous parce que ça nous permet de se dire les choses, même si parfois c'est un peu compliqué et qu'on peut pas tous dire. Mais on essaye tout du moins de se dire le maximum de choses et toujours d'être dans des bilans perspectives. C'est-à-dire, on met en œuvre une action, un parcours pédagogique qu'on a inventé, enfin inventé, c'est un grand mot, disons qu'on a pensé, et on va en faire un bilan. Et on va se dire, là on a bien fait, on a mal fait, on refait pas l'année prochaine, on refait différemment, etc. Donc c'est toujours aussi une remise en cause de ce que l'on fait, de notre statut, tel que aussi le travail en binôme dans les classes, où parfois nous ne sommes pas de la même matière, et souvent nous ne sommes pas de la même matière lorsqu'on intervient, où on peut être un peu mis en porte-à-faux par les élèves, parce que on ne sait pas répondre, parce qu'on n'est pas... Voilà. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que la connaissance, elle descend pas comme ça du ciel, ça s'acquiert, d'accord ? Et puis, c'est pas parce qu'on a estampillé prof qu'on sait tout. Voilà. Donc, ce qui veut dire aussi que c'est que la connaissance, elle est
pour tous.
Oui, mais ça rejoint ce que vous disiez sur le fait de donner l'envie. C'est un peu ça qu'on fait ici, quand même. C'est, on donne l'envie d'apprendre, de venir. On donne des objectifs, mais on donne aussi un goût pour les choses.
Ça, je crois que vous venez de définir le métier de celui qui transmet, que ce soit vous, le journaliste, ou l'enseignant, ou d'autres métiers. Quand on veut transmettre, il faut déjà donner l'envie de recevoir ce qu'on a à transmettre. Sinon, on ne fait rien. Voilà. Donc, on ne fait rien d'extraordinaire en s'adaptant aux gens qui sont en face de nous. On commence par essayer de ressentir ce qu'ils attendent, où sont leurs curiosités, où sont leurs soucis, pour pouvoir au mieux parler avec eux, communiquer avec eux. Donc, je pense que c'est le métier de base. Voilà. Ça ressemble tout à fait aux instituteurs du 19e siècle qui devaient s'adapter dans des classes où les enfants avaient envie d'aller travailler avec leurs parents ou étaient obligés d'aller travailler avec leurs parents ou ils n'avaient pas envie de lire. Enfin, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est plus étonnant, c'est que l'école en général, le collège surtout, le lycée aussi, dans l'institution, ne se sentent pas plus interpellés et bouleversés que ça par son nombre d'absents. Alors on en parle au niveau des absents, on en parle au niveau politique, en inventant des drôles de mesures qui consistent à sanctionner les parents, à affamer les parents, comme disent une fédération de parents d'élèves. Hein, quand on veut supprimer les allocations familiales aux parents des enfants absents, voilà, il y a des solutions comme ça, mais l'institution elle-même...
On propose de payer les élèves pour venir aussi, quand même.
Effectivement, on propose aussi de payer les élèves qui... Mais bon, l'institution elle-même, dans son métier, a du mal à s'interroger. Voilà, moi je suis bien contente d'avoir trouvé un petit endroit où on s'interroge. Et je suis bien contente qu'il y ait d'autres endroits où on s'interroge. Je suis bien contente qu'il y ait dans l'institution des individus partout, dans tous les lycées et les collèges, qui s'interrogent. Ça, il faut le dire aussi. Quand je parle de l'institution, je parle bien de l'institution, de son administration. Je ne parle pas forcément des enseignants et des autres enseignants.
Mais c'est parce qu'aussi il y a un changement du métier. Ça veut dire que quand avec Anne, on a passé le bac dans nos années, on est des vieux, il y avait 41% des élèves qui avaient le bac. Au jour d'aujourd'hui, on est dans les 70%. Donc ça n'a rien à voir, déjà. Et donc, cette idée très belle hein, de la connaissance pour tous, c'est donc de la massification, comme on dit, n'a pas été suivie des faits par la formation. Par-delà, le métier a changé, mais sauf que les formations n'ont pas changé des enseignants et tendent même à encore devenir de pire en pire avec la suppression des UFM et avec tout redonné à l'université et donc au savoir méta. Voilà. Qu'on a, je crois, en UFM 6 heures ou 8 heures sur connaissance de l'adolescent, c'est tendu, hein. Parce que c'est ça aussi, c'est, l'école elle est faite comme ça, hein, un enfant qui a 14 ans, 15 ans, une jeune fille qui voit son corps se transformer, un garçon qui a plein de boutons sur la tête, qui ne comprend pas, il aime bien les filles mais préfère rester avec les garçons, il y a plein de questions là, et l'école lui en donne peu lui donne peu d'espace pour y répondre. Et pour certains, ça passe, pour d'autres, ça passe pas. Mais le rythme, il est le même pour tous. Et donc ça ne peut pas passer. Pour une partie, ça passe pas. Et souvent, le décrochage scolaire, on va dire, n'est que le résultat d'une inadaptation ponctuelle, temporelle, à un moment. Et qui se retrouve partout. Hein. Quand nous, on fait des fiches d'expérience, on fait remplir des fiches d'expérience à nos élèves en début d'année, lors de l'entretien. On voit bien que très souvent, lorsqu'il y a l'en décrochage de l'école, il y a en même temps l'en décrochage des activités sportives, artistiques, etc., qui sont en dehors de l'école. Donc, tout est lié. C'est un mal-être, c'est un truc comme ça qui se met en place. Voilà. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Je ne dis pas qu'il faut faire de l'individualisation top pour chaque gamin, juste le prendre en compte et demander peut-être aux enseignants de est-ce qu'on pourrait travailler autrement. Je pense qu'il y a beaucoup 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 d'enseignants qui voudraient travailler autrement et qui voudraient avoir leur métier se transformer, ne pas faire que de la passation de connaissances, faire peut-être autre chose. Justement, avoir du temps de tutorat, d'avoir du temps de s'occuper plus de leurs gamins, etc., etc. Voilà, mais bon, ça c'est pour plus tard.
Et moi je trouve que la proximité qu'on a avec les élèves et le temps, donc, parce qu'on a 40 élèves dans un lycée, mais on a 40 élèves, ou même 30, ou même 25, mais pour certaines matières, fois 6. C'est ça qu'on oublie. Hein. Si on a 30 élèves, bien sûr qu'on a largement le temps de parler avec eux. Quand on en a 30 fois 6, 180, on est prof de français, on a 200 copies par semaine à corriger. C'est vrai que franchement, c'est pas facile. Quoi. Et bon, ici, le fait de pouvoir partager avec eux, bon, je parle pas que du voyage, mais ça, je pense qu'en effet, c'est quelque chose d'unique. Quand on voyage tous pas mal dans l'équipe et on voit bien que tout ce qui se passe à l'étranger, on le vit x10, la moindre petite chose, c'est un super souvenir. Bon, on se dit que quand on va revenir de là, moi, il me tarde, hein, parce que j'ai pas encore connu ça. Il y a des relations très fortes avec les gamins. Mais même ici, quoi, ça fait sauter des barrières, je trouve, le fait d'être avec eux et d'avoir le temps de parler, pas de « alors, vas-y, t'as compris, t'as pas compris, tu veux que je t'aide ou quoi », mais de pouvoir... participer même à leurs loisirs ou discuter même de tout fait de rien avec eux, quoi, même déconner, enfin tout simplement. Mais c'est vrai qu'ici ça se fait plus facilement dans un lycée normal. Moi je sais que j'aimais bien faire ça. Il y a des fois il y a des collègues qui vous regardent, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là, tu parles de jeux vidéo, tu parles de sport avec eux, mais je veux dire, tu vois, il faut garder cette distance et tout. Et du coup, bon, même on se dit, bon, mais je sais pas, peut-être que je fais il y a des collègues qui le font, d'autres qui le font pas, mais du coup l'ambiance n'est plus du tout la même. Et puis c'est là que les élèves s'autorisent à nous dire des choses qui ne seraient pas dit avant. Donc j'ai un petit souci à la maison, machin, et bon, ici ça, bon, même si c'est pas facile pour tous, hein, mais c'est quand même plus naturel. Et puis de toute façon, ici je pense qu'on a besoin de savoir ce qui se passe avant. Enfin, je pense que pendant la phase de recrutement, ça se sait, quoi. Voilà, on sait ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a quand même des profils aussi psychologiques de certains qui sont assez fragiles. Et bon, il vaut mieux avant d'entamer des discussions sur des choses un peu plus, je sais pas, triviales, savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Mais moi, je trouve vraiment que c'est ça. La grosse différence, c'est le temps, voilà, la proximité, et puis bon, ce qu'on dit aussi, hein, ce confort, cette équipe qui est vraiment... les élèves sentent qu'ici, ça se passe bien, qu'il y a une bonne ambiance, et je pense qu'ils sentent... Enfin, il n'y a qu'à voir. Hein,
Et surtout, ils sentent l'équipe soudée. Donc, il n'y a pas de coin. Si ils tentent, ils testent, normal. Mais ils voient bien qu'en face, c'est 12 profs qui vont répondre. C'est pas un individu seul dans sa classe. Et donc, du coup, ça dégonfle tout. Deuxième chose, ils se connaissent pas avant d'arriver. Donc, il n'y a pas les phénomènes aussi qu'on peut avoir dans les bahuts où les gens se connaissent, les animosités, les ceci, les cela, entre élèves ou avec des enseignants. Là, ils sont tout neufs, tout le monde est tout neuf. Et on a un an à passer ensemble, et l'objectif, c'est de les faire réussir. Donc ça aplanit beaucoup de choses. Voilà. Contrôle des absences, c'est une discussion entre le tuteur et l'élève. Des retards aussi, c'est quelque chose qui n'est pas sanctionné, qui est retravaillé en fonction du projet. Ça veut dire que on met toujours en perspective le projet du gamin et ce que l'on va résumer par le terme de posture scolaire. Tu veux aller dans un cursus classique pour faire, pour faire ça, nous on sait qu'il faut ça. Si tu commences à toujours arriver qu'à 10h30, donc à louper une heure de cours, enfin la première heure, nous c'est des séquences d'une heure et demie, si t'as pas ton matériel, si c'est compliqué pour avoir un agenda et faire tes devoirs, si ceci, si cela, c'est pas très... En soi, c'est pas extrêmement grave, mais pour rentrer dans ce type de formation, c'est compliqué. Par-delà, donc, soit tu changes de la façon dont tu t'organises, et nous, on est là pour t'aider à changer cette organisation, à t'aider à trouver ta propre organisation, ou soit peut-être, c'est pas adapté au projet t'es pas adapté au projet que tu veux mener, et donc. Tout ça, absence, retard, etc., vont être toujours traités avec l'objectif de sortie. Donc, c'est pas t'arrives pas à l'heure, à cette heure-là, maintenant, tu m'avais dit que tu es venu en cours, tu viens pas, t'auras pas fait ça, bah, ça prouve que t'es pas dans l'histoire, quoi. Mais c'est pas très grave. On peut se raconter d'autres histoires. Nos gamins, ils arrivent, ils veulent aller en première, et puis après, ils se disent, oh, pff, ça sera peut-être une seconde. Puis en fait, le monde professionnel, c'est pas mal. Peut-être plutôt faire un bac technique, voilà. Donc, voilà. La seule chose, c'est qu'ils ont le droit de se tromper, et on favorise, l'erreur est un grand apprentissage. Et on leur dit, ouais, trompez-vous. En science, sans erreur, il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas découvert. Hein. Je pense que je suis moins fort en lettres, mais je pense. Que...
Non, mais il faut favoriser le repentir, comme chez les peintres. Non, la seule chose contre laquelle on doit énormément lutter, en fait, c'est les effets des petites humiliations ordinaires qui cassent les enfants. Je dis pas qu'elles viennent forcément de l'école, mais souvent des décrochages se passent. Voilà, à la suite de petites blessures, des choses qui bloquent. Et donc, il faut être attentif à débloquer ce qui s'est bloqué. Donc, voilà pourquoi on écoute beaucoup et qu'on ne va pas sanctionner à la première absence. Ça veut dire que c'est un métier fait de dialogue. Mais dialogue, ça ne veut pas dire absence de précision, de rigueur et de tension et de fermeté dans le projet qu'on accompagne. Voilà, c'est tout. C'est simplement que la loi ne s'applique pas, enfin, ne peut pas s'appliquer de façon raide quand on est dans un processus d'apprentissage.
Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'ils sont sortis, les élèves qui viennent ici, vous les perdez de vue ou pas forcément? Est-ce que vous pouvez comme ça, me donner en gros une petite proportion de ceux qui retrouvent un système classique, ceux qui s'orientent vers d'autres projets, ceux qui rentrent peut-être dans la vie active?
Au LSI, il y a 70% de nos élèves qui nous quittent. Après la première année, une partie qui part vers l'enseignement dit classique, une toute petite partie, toujours un ou deux, qui vont continuer leur cursus au lycée intégral parce que la réconciliation avec l'école n'est pas encore terminée. Donc il faut qu'ils restent encore un petit peu près de nous. Et puis 30% qui vont soit aller sur le LSI 2, et une autre qui va choisir la voie de l'orientation professionnelle, on va aller bosser, quoi, parce que ça y est, on a revérifié que l'école, c'était pas pour nous. En revanche, on s'est assis sur des connaissances, on sait faire des lettres de motivation, des expériences, des choses comme ça, qui fait que on se sent d'attaque pour repartir vers plutôt le monde de la vie active. Ou une partie aussi qui part vers le DEAU, le diplôme d'entrée aux universités, mais ça c'est plutôt des élèves de deuxième année, qui eux aussi ont vraiment vérifié que l'école telle qu'elle est, ça leur plaisait pas, mais en revanche les études et la connaissance et acquérir de la connaissance, ça c'était quelque chose qui les interpellait et dont ils avaient envie. Voilà.
Voilà, les professeurs du lycée intégral et du lycée de la solidarité internationale, donc le fameux lycée Lazare Ponticelli dans le 13e arrondissement parisien, d'où sortent des élèves, pas que des élèves d'ailleurs, c'est plus des élèves, c'est des citoyens. Et la preuve, avec cette discussion qu'on a eue au sortir de ce reportage avec deux lycéens et un ex-lycéen, Guillaume, qui a passé beaucoup de temps au lycée de la solidarité internationale avant d'en sortir, et Kevin, qui y est rentré cette année et qui allait partir au Sénégal, Kevin qui a déjà fait d'autres voyages, notamment en Haïti l'année dernière, et un troisième, Benjamin, qui lui, pour lui c'était son premier voyage au Sénégal. Il en est revenu là, on les recevra bientôt, ils nous raconteront ce qui s'est passé. Mais je les ai rencontrés, c'était juste avant qu'ils partent, et vous verrez que voilà, c'est plus une discussion entre nous qu'un véritable entretien. On les écoute.
Grâce à l'éducation, tu peux, enfin, t'as des portes qui sont ouvertes forcément, même si c'est un pays en voie de développement où bien sûr t'as pas 1000 métiers et tout, que c'est galère et tout compagnie. Savoir lire et écrire déjà, tu peux aller dans la ville et t'auras plus de chances de trouver un bon travail plutôt bien rémunéré que si tu sais pas lire et écrire. Quand tu vas aller en ville, tu vas ramasser les ordures ou vendre des trucs dans la rue.
Oui, mais n'y a-t-il pas, tu penses, d'autres priorités avant le développement de l'agriculture, par exemple,
Si, justement.
Ça pourrait être aussi l'aspect hospitalier.
Bien sûr, la priorité, c'est de manger, boire et de pouvoir dormir. Ça, c'est les priorités. Maintenant, le truc avec ça, le problème avec ça, c'est quoi? C'est que genre, à chaque fois, nous, on va venir, on va les aider pour qu'ils puissent bouffer, pour qu'ils puissent boire et pour qu'ils puissent dormir. En fin de compte, est-ce que eux, ça va les aider réellement? Parce que à long terme, moi je parle à long terme. Parce qu'à court terme, ouais, d'accord, c'est bien pour les aider et tout. Mais à long terme, le mieux, ce serait qu'ils puissent se débrouiller seuls. Et pour qu'ils puissent se débrouiller seuls, faut qu'ils aient une éducation. Faut qu'ils savent fabriquer des maisons. Faut qu'ils savent c'est quoi le truc de l'eau, machin. Ouais, faut qu'ils sachent c'est quoi le machin de l'eau et tout, comment faire pour épurer. Et pour ça, faut qu'ils aillent à l'école. Et pour ça, faut qu'il y ait des écoles.
Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin des blancs pour apprendre à construire leur habitat, à cultiver, à cueillir ce qu'il leur faut? Je pense que ça, c'est intrinsèque en eux, quoi. Ils l'ont appris eux-mêmes. C'est un peu, il me semble, arrogant de...
Ouais, de venir et dire, ouais, c'est comme ça, et puis voilà, ouais, j'avoue, c'est vrai que c'est un peu... les prendre d'eau, façon, mais...
Honte, ça implique aussi vraiment toute une réflexion sur ce qui existe là-bas au préalable, et ce que le blanc ou l'européen, le riche, peut apporter. Ça, je pense que ça réclame une réflexion assez creusée, en fait.
Le problème, c'est que ça a été perdu. Le problème, c'est que justement, à la base, ils savaient déjà et tout. Ils savaient très bien se débrouiller sans nous, puisque quand on n'était pas là, ils vivaient très bien, la preuve.
Ouais, mais la question, c'est pourquoi ça a été perdu? Pourquoi ils se sont mis à la monoculture? Pourquoi ils se sont mis à exporter des trucs à produire en grande quantité, alors que leur culture vivrière, ils l'ont perdu?
Bah, à cause de nous, les Blancs qui sont venus avec la colonisation et compagnie, toutes ces conneries. Alors maintenant, c'est un peu aussi de notre responsabilité de les aider à nous de réparer le mal qu'on a fait. Et justement, s'ils ont oublié tout ça, c'est à cause de nous. C'est parce que nous, on est venus avec nos grands souliers et tout, on a dit c'est comme ça, puis c'est tout. Et eux, ils ont cru et tout. Puis maintenant.
Oui, mais ça pourrait être l'inverse aussi. Peut-être la solution, c'est de nous retirer et de ne plus y aller aussi. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même, je pense, avant de se lancer dans ces projets-là, qu'il y ait quand même une étude, une réflexion sur qu'est-ce qu'on va offrir, qu'est-ce que ça impliquera sur 30 ans, par exemple. Et je pense que si ce boulot-là n'est pas fait, ça peut créer de vrais problèmes.
Bah, moi, j'ai
plus
envie
que
de dire...
ça en résoudra.
C'est vrai que déjà, c'est sûr, faut bien réfléchir à ce genre de choses et tout. Mais juste pour prendre la défense du projet Haïti, puisque moi je suis bien calé là-dessus. Non, mais enfin, prendre la défense, façon de parler. Même par rapport au projet Sénégal, déjà, première chose, l'école, si on vient la faire, c'est parce que c'est leur demande. S'ils auraient demandé des puits, on serait venu faire des puits. Maintenant, c'est eux qui ont une demande. Et nous, on se propose de le faire. Après, bien sûr, faut réfléchir à est-ce que c'est vraiment bien... qu'ils soient dépendants de nous pour faire ce genre de choses. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt leur apprendre à pouvoir le faire eux-mêmes?
Il y a ce proverbe qui dit plutôt que de te proposer du poisson, apprends-lui à pêcher, il me semble. Ouais.
Ouais.
Et qui est un proverbe que je trouve assez puissant, assez fort. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai envie, moi, de poursuivre aussi ces projets humanitaires, entre guillemets humanitaires.
Plus du développement durable.
Mais oui, c'est vraiment comment faire des projets tout en faisant la promotion de l'autonomie, en fait, sur place, quoi. Parce que c'est vraiment cet objectif-là qui est celui du LSI, en fait.
Oui, mais je crois que c'est bien intégré, parce que je discutais avec Philippe, votre prof, tout à l'heure, qui disait qu'il faisait très gaffe à prendre des matériaux locaux, des outils qui puissent être... et puis des outils aussi qui puissent... c'était pas la peine d'arriver avec une perceuse visseuse électrique là-bas, par exemple. Des choses, ils étaient quand même très, très attentifs à ça. Moi, ça m'a bien parlé, ça.
Bah, ça fait un bon moment qu'ils font ça et tout. Le LSI, je crois que ça fait une quinzaine d'années que ça existe et tout. même si, enfin, je sais pas, même si ça m'a l'air quand même assez jeune, je crois qu'ils ont vraiment bien réfléchi à la question et tout. Donc, franchement, moi, j'y vais, je vais au Sénégal et tout, sans prendre la tête justement avec ce genre de questions. Oui. Néanmoins, ces questions existent, elles existent et tout. Et
Il y a le projet qui est bien pensé, qui va être de toute façon utile et tout ça. Puis il y a aussi la politique internationale sur laquelle on peut avoir un avis en tant que citoyen, on peut avoir un poids en tant qu'électeur, mais quand même très limité. La colonisation, on dit qu'elle est finie, mais bon, enfin, c'est quand même pas tout à fait fini.
C'est pas fini, la colonisation, elle est finie dans les grandes lignes. Ouais, c'est dans les grandes lignes, justement.
La dépendance économique, la dépendance économique et puis l'asservissement de ces pays au niveau économique, il y a trop d'intérêts pour que ce soit fini.
Donc, le rôle du FMI, Banque mondiale, qui sont quand même, admettons-le, des institutions qui détruisent les pays, quoi. Qui étouffe en fait ça sous un ensemble de lois néolibérales qui a prouvé sa faillite il y a un an. Et bon.
Non, c'est juste pour faire arrêter. Ils ont de la morale, mais ils n'ont pas de morale, c'est juste pour faire genre, ça c'est de la poudre aux yeux. Moi ce que je voulais dire, c'était pour revenir en fait sur le LSI, et justement, l'un des bons côtés de cette école, c'est que par exemple en cours, moi, je sais que déjà, je vais revenir à moi et tout. J'ai arrêté l'école très tôt, en primaire. Depuis, j'ai toujours été inscrit à droite à gauche, mais j'ai jamais vraiment tenu. Et quand j'y allais les rares fois, c'était pas pour les cours, c'était à la limite pour voir des gens et tout, mais histoire de faire le mec sociable, mais les cours, rien à faire, quoi. Et en fait, ce qui est bien justement avec cette école, c'est que les cours sont toujours centralisés sur des choses qui nous parlent, nous, si on est là, c'est qu'on aime un peu... déjà, par exemple, quand on parle quand on est en cours d'économie, on parle justement de la pseudo-fin de la colonisation et tout, et on fait des cours là-dessus. Et c'est notre intérêt, parce que non seulement ça nous apprend, on fait des cours, mais en plus, c'est des choses qu'on a envie d'apprendre. On a envie de les apprendre. C'est nous qui avons envie de savoir. C'est pas genre on vient, on nous donne un manuel, et voilà, vous devez apprendre ça. Pourquoi on apprend ça? Parce que
je pense que ces cours sont applicables ensuite dans les projets qui sont proposés, en fait. Donc il y a une espèce de cohérence qui fait qu'on a envie en fait de venir en cours et d'apprendre en fait, parce que c'est applicable et que ça correspond à quelque chose de réel, quoi, qui est prégnant en France mais aussi ailleurs, et pour lequel je crois on a envie de s'impliquer, quoi. Ça parle plus que de faire du français pour du français, quoi. Voilà
moi, faire du français pour du français, des cours pour faire des cours, histoire de juste passer le diplôme et puis après oublier ce que t'as appris. J'en vois pas trop l'intérêt. Là, tu sais que tout ce que tu apprends là, si tu le sais pas déjà, pendant ton projet, tu vas être un peu dans la merde. Et deux, ce que tu apprends, tu vas l'appliquer en conditions réelles, sur place et tout. Donc, t'as envie de le savoir justement pour... par exemple, quand je parle des cours d'éco, quand on parle de tout ça et tout, t'as envie de savoir un peu pourquoi on en arrive là, pourquoi on en arrive à nous aller aider chez eux et tout, alors que bon, à la base, disons que ce sont d'excellents chasseurs, d'excellents pêcheurs, ils se débrouillent très bien sans nous, alors pourquoi on doit aller les aider? Pourquoi? Parce que, à cause de qui? À cause de nous, de nos politiques et tout, et compagnie, de nos institutions.
Moi, je pense que c'est vraiment une école qui permet de faire éclore la citoyenneté dans le sens premier du mot, quoi, d'être impliqué, quoi, dans ce qu'est notre monde et la façon de l'améliorer, quoi. Ça, c'est extrêmement précieux, je pense, et il faut le pérenniser et l'approfondir. J'aime bien ce lycée, quoi, en gros.
Ah ça, je pense que tout le monde, on est d'accord là pour dire que ce lycée-là, on kiffe à fond. Franchement, tu parles de citoyenneté. Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours eu honte d'être citoyen, ou en quelque sorte de la France, rien que d'un pays développé. Parce que je me dis, je suis là, je me plains parce que j'ai pas eu le dernier iPhone et tout, alors que bon, à côté, il y en a qui crèvent de faim. À cause de qui? À cause de ceux justement qui font l'iPhone. Donc bon, je dis ça, c'est pas vrai, mais
en gros,
en gros, ouais, voilà.
Ceux qui les fabriquent maintenant les iPhones, ils crèvent de faim aussi. Hein. C'est ceux qui sont en train de les fabriquer.
Ouais, ouais, oui, enfin, en plus. Voilà, ceux qui font les pièces et tout. Mais alors, et tout,
Où est le fric alors dans ce cas-là? Où est cet argent? Expliquez-nous. Expliquez-nous où est ce fric, parce qu'on veut notre part aussi. Oui.
Ouais, j'avoue, parce que
on
bon...
veut notre part aussi, hein, parce qu'il y en a marre de l'humanitaire, on veut du fric.
C'est vrai, franchement, c'est ce qu'on disait tout, quand je suis allé à Haïti, franchement, bénévole, c'est super, mais ça paye pas assez. Bénévole, franchement, 3 semaines à Haïti, 41 degrés, chantier et tout, tous les jours, franchement, bon, c'est super cool et tout, mais question de thune, tu rinques un peu, quoi.
Il y a aussi le fait, ce que je voudrais ajouter moi, c'est qu'il n'y a pas que cet engagement dans les pays étrangers aussi, quoi. C'est qu'il y a aussi le LSI bosse aussi pour la région parisienne, pour un peu pour faire un peu de la réintégration en fait de gens qui ont arrêté les cours parce qu'ils manquaient de sens, quoi, et que ça ne prenait pas sens pour eux. Et il y a vraiment cette volonté, je trouve, de recyclage. Bon, c'est un mot un peu étrange, mais de recycler ceux qui, à un moment, se sont retrouvés dans une posture un peu excluante, exclue, quoi. Et ce projet-là, je le trouve très noble et profondément humain, quoi, de donner une seconde chance à ceux qui ont échoué plus ou moins dans un parcours assez classique.
Normes.
Oui, mais
pas dans les normes, tu as échoué.
Vu de cette manière-là, voilà, faut admettre cette réalité, je pense, quoi.
Bah ouais, enfin justement, quand tu vois le PIL et tout, le PIL, en disant que je parle aussi bien du LSI que du LI, c'est quoi à la base le PIL, les élèves du PIL, qui, c'est qui justement les élèves du PIL? Eh ben, ce sont en grande générale pratiquement à 100% que des jeunes qui ont décroché et tout, et qu'ailleurs, je sais pas pour les autres, mais qu'ailleurs, on voudrait pas de nous, quoi. Alors que nous, on est ici et tout, on fait des trucs super. Enfin, je vais pas parler pour moi parce que j'aime pas ça, mais quand je vois et tout ce qu'ils ont fait, les gens en LSI 2, en LSI 3, ce qu'ils ont fait les années précédentes et tout, là, on va finir l'école à Diarra et tout, faut savoir que ça fait déjà pas mal d'années qu'ils y vont et tout. J'ai vu des photos et tout, et ce qui a été fait en ces quelques années par des élèves, mais c'est immense. C'est immense. On est passé d'un petit village qui n'a même pas son nom sur une carte sénégalaise à aujourd'hui. C'est une grande école avec presque 100% des gamins qui sont présents, qui vont à l'école, ce qui est exceptionnel en Afrique. Et ça, c'est génial. Alors justement, ce truc d'aller chercher des jeunes soi-disant en échec et leur faire faire des trucs géniaux comme ça, bah ça c'est...
Et utile.
Ouais. Et utile.
Parce qu'il y a un volet que j'apprécie, en fait, moi, c'est la coopération, en fait. C'est que les élèves du LSI profitent de cette expérience et les villageois profite aussi de cette expérience. On tient un peu cette espèce de double échange, double apport, qui fait que qu'il n'y a que du positif ou presque. Et ça, c'est assez réjouissant, je pense, quoi.
Franchement, moi, tout ce que je souhaite, c'est que cette école-là, en fait, elle s'agrandisse sur Paris et tout, qu'il y a plus de gens, ouais, voilà, qu'il y en ait plus dans toute la France et tout, dans d'autres villes et tout. Que plus de monde ait la chance, parce que franchement, des fois, je me sens un peu privilégié. Je suis au foyer et tout, j'en vois, il y en a plein, ils galèrent et tout. Ils font des trucs, des BEP et tout, mais ils ont aucune envie de le faire. Ils le font parce qu'on leur a dit de le faire. Ils en ont aucune envie, mais ils le font parce que c'est comme ça et qu'ils doivent le faire. Alors pourquoi tu fais ça? Bah parce qu'on m'a dit de le faire. Bah t'es quoi toi? T'es un poisson rouge, je sais pas, tu suis. Moi je veux pas être comme ça. Enfin, après, je sais pas, ça rabaisse, c'est rabaissant. Après, tu finis comme une statistique. T'es qu'un chiffre, comme à l'ASE, t'es qu'un chiffre sur un bout de papier. T'es le numéro et quelques, je sais pas combien, et t'as voté à tel endroit, t'es de telle opinion politique, tu as tant d'enfants, tu coûtes tant d'argent à l'État, et point barre. T'es plus une personne. Nous, là, au moins, on est des êtres humains, on est des gens qui pensent tout par nous-mêmes et tout. C'est pas genre on nous dit de penser ça, alors on le fait et tout.
et qui faisons des expériences humaines, quoi. Moi, les projets que j'ai faits, ça n'a pas été des projets que agréables. Mais c'est vrai que ça m'a fait évoluer quand même, parce que la confrontation avec l'étranger, c'est intense. Ça fait un peu se questionner sur soi, sur sa culture, sur ce qui est ouvert aussi. Parce que quand je suis rentré en France, moi, j'ai vu que j'avais plein de formations possibles, alors que ceux que j'avais quittés sur place, bah, ils retrouvaient un peu leur misère et leur perspective qui était quand même plus que restreinte. Et l'autre chose que je voulais dire, moi, c'est que ce que j'aime aussi dans le LSI, c'est qu'ils ne font pas que proposer les projets qu'ils proposent. Il y a aussi le côté suivi, quoi. C'est qu'ils, suite à un LSI1, par exemple, ils vont accompagner celui qui a quitté le LSI et l'aider dans la suite, quoi. Et donc, ça peut être trouver des formations, de l'aider à clarifier son projet professionnel, à penser à ce qu'il pourrait faire après. Et je trouve que ce suivi-là, c'est vraiment précieux parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de propositions, mais où c'est pas évident de s'y retrouver non plus, quoi. Et voilà, moi, cet aspect-là m'a aidé. Et voilà.
Voilà, comme l'a dit Guillaume et Kevin avant, on est sur le terrain, on peut apprendre de nos erreurs. On a aussi derrière nous l'expérience quand même de personnes. Voilà, là, cette année, c'est la 15e année que les professeurs vont au Sénégal, donc on sait qu'il y a quand même une grande expérience derrière. On est couvert quand même de tous côtés, mais on a quand même la chance de pouvoir expérimenter des choses sous forme de stage ou de voyage.
Toi, t'as une idée de ce que tu feras après ?
Ouais, j'aimerais bien passer un DEAU, c'est un équivalent bac. Et après, peut-être faire une école d'ingénieur en agrodéveloppement.
Ouais, donc, voilà. Et cette idée de faire de l'agrodéveloppement, ça t'est venu en étant ici ou t'avais déjà cette idée avant ?
Non, ça m'est venu cette année, en fait, surtout de continuer dans tout ce qui est développement durable, dans tout ce qui est humanitaire, voilà.
Sinon, humainement, ça t'a apporté quoi ?
C'est une classe où tous les gens ont plus ou moins les mêmes centres d'intérêt, tout de même. Aussi, on a tous, on va dire, eu plus ou moins un même parcours. On était des rebuts de l'école, on peut dire. Et où là, on nous remet en selle. Pour certaines personnes qui avaient peut-être perdu la confiance, ces personnes-là peuvent reprendre confiance en elles et tout. Et se dire que bon, tout n'est pas... Tout n'est pas rose forcément, ou que ce soit, mais que bon, ils ont une chance dans l'école et qu'ils doivent la tenter, quoi, qu'ils doivent l'attraper.
Voilà, ils ont attrapé leur chance, ces trois-là, et je leur fais confiance pour en faire quelque chose de cette chance. On retrouvera ces élèves très bientôt en direct sur cette antenne. Ils viendront nous présenter eh bien, le compte-rendu de leur voyage d'ici quelques semaines. On les retrouvera pour une autre émission. Je remercie beaucoup tous les professeurs du lycée de la solidarité internationale et du lycée intégral, ainsi que les élèves. Voilà, c'est donc le lycée Lazare Ponticelli, c'est dans le 13e arrondissement, et j'imagine que ça aura donné envie à beaucoup d'élèves et peut-être à beaucoup de parents de se rapprocher de ce dispositif. L'émission touche à sa fin. Liberté sur parole, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine entre 8h et 10h pour une nouvelle émission. Un grand merci à Alexandre Barthélémy qui a réalisé cette émission. Dans quelques instants, à 10h, vous retrouverez Clémentine Blaisiot. Elle vous présente une émission intitulée « Chacun pour tous » et il sera question de discrimination et d'homophobie. Excellente journée à tous.
La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit. La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit. les seins bandés, les yeux clos, elle parcourt un beau pays où la tendresse se mêle à la colère. Elle sera toute surprise après la danse, après l'ivresse, de retrouver la rue froide, la nuit précoce et ses draps froids. La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit. La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit. Cette Vénus inconnue dans la conque blanche du lit rêve d'un Olympe noir comme elle. Des anges noirs comme du charbon levant cette déesse de couleur l'emporte vers un pays de ténèbres.